Rabat, qui devient la capitale mondiale du livre 2026, sur le papier, c'est une image absolument parfaite.
Ah oui, c'est clair.
Ouais, on a des projecteurs internationaux braqués sur la ville, des auteurs prestigieux qui défilent partout, des dizaines de milliers de visiteurs à l'espace OLM Suissy, enfin bref, la réussite culturelle totale, quoi.
Totalement. C'est la fête.
C'est ça, la grande fête du ciel, la 31e édition du Salon international de l'édition et du livre. Mais en fait, derrière cette célébration géante, il y a une question qui est beaucoup plus angoissante, je trouve.
Ah, laquelle du coup?
Bah, c'est de se demander ce qui se passe le 11e jour.
Le lendemain de la clôture, oui.
Exactement. Que reste-t-il quand on démonte les tentes, que les délégations étrangères rentrent chez elles et que la ville, bah, elle se réveille face à une industrie du livre qui, au quotidien, reste quand même structurellement très fragile.
Ouais, en fait, c'est toute la différence entre un feu d'artifice qui est magnifique sur le moment et l'installation d'un vrai réseau électrique durable, quoi.
J'aime beaucoup cette image, oui.
Bah, le titre décerné par l'UNESCO, c'est pas juste une décoration qu'on accroche au mur pour faire joli dans un bureau.
Non, c'est sûr.
Un salon littéraire de cette taille, c'est en réalité un sismographe social. Ça capte et ça révèle avec une précision vraiment redoutable toutes les failles et les forces d'une nation.
Un sismographe, ouais.
Voilà, ça montre comment une société gère son savoir, comment elle intègre sa jeunesse et surtout, quels outils elle met en place pour construire son avenir, en fait. Si on s'arrête juste aux festivités, on rate l'essentiel du message.
Et c'est précisément la mission de notre décryptage aujourd'hui. L'idée, c'est de gratter un peu sous le vernis de cette fête.
On va aller voir derrière le décor.
Exactement. Et pour ça, on plonge dans une source qui est particulièrement riche. C'est l'édition spéciale du magazine de l'ODJ Média.
Ah oui, le Image.
Voilà, le Image spécial Ciel 2026, qui est dirigé par Adnan Benchakroun. L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de décortiquer ce que ce label de capitale mondiale du livre implique concrètement, sur le terrain.
Ouais, les vrais enjeux.
C'est ça. Est-ce que c'est juste une parenthèse enchantée de quelques jours, ou est-ce que c'est le début d'un chantier titanesque pour créer une vraie politique de lecture durable?
Bah, l'éditorial d'Adnan Benchakroun y pose d'ailleurs un diagnostic qui refuse totalement la langue de bois à ce sujet.
Ah oui, il y va franchement.
Il y va très franchement. Il rappelle une vérité économique de base, c'est qu'un label prestigieux, même si ça vient de l'UNESCO, eh bien ça n'achète pas de papier, ça n'imprime pas de livres.
C'est pas une baguette magique, quoi.
Exactement, et surtout ça ne crée pas de lecteurs par magie. Nos sources, elles mettent vraiment en lumière une confrontation assez saisissante entre, d'un côté, une vitrine internationale hyper éblouissante, et de l'autre, ben, des réalités économiques qui sont très têtues.
Ouais, faisons un peu le point sur ce contraste, parce que je le trouve massif. D'un côté, le programme du ciel, c'est le tapis rouge absolu.
Ah, c'est prestigieux.
On y célèbre la figure immense d'Ibn Battuta, tu sais, le grand voyageur, qui est vraiment le symbole du dialogue des civilisations.
Oui.
On a la France comme invité d'honneur. On a la présence évoquée d'une prix Nobel comme Annie Ernaux. Enfin, on est dans la cour des grands, quoi.
C'est du très lourd, oui.
Mais de l'autre côté, en lisant les analyses du magazine, on découvre une chaîne du livre marocaine qui, en fait, qui souffre pas mal.
Oui, c'est le revers de la médaille.
Non, il parle de coûts de production prohibitifs, d'une distribution qui a un mal fou à couvrir tout le territoire, et puis, évidemment, la concurrence numérique qui est féroce. Du coup, je me demande... pourquoi l'équation est-elle si complexe à résoudre, même quand on a une telle visibilité mondiale?
Bah, pour comprendre ça, il faut regarder la mécanique invisible du secteur, en fait.
La mécanique invisible?
Ouais, le livre, c'est une industrie lourde. On n'y pense pas toujours, mais avant d'arriver entre les mains d'un lecteur, il y a toute une chaîne. Il y a un auteur qu'il faut rémunérer, il y a un éditeur qui prend un gros risque financier.
Bien sûr.
Il y a du papier qu'il faut souvent importer, avec des coûts qui n'arrêtent pas de fluctuer sur le marché mondial.
C'est vrai que le papier a coûté super cher ces derniers temps.
Exactement. Et puis, il y a les imprimeurs, les distributeurs et enfin les libraires. Et le truc, c'est que si un seul de ces maillons est faible, le prix final du livre, il explose.
Et s'il explose, ça devient inaccessible.
Voilà, le livre devient un objet de luxe. Et c'est précisément ce mécanisme économique qui renforce cette perception, qui est encore beaucoup trop fréquente, que la lecture serait une activité élitiste.
Ou alors juste un truc scolaire obligatoire, quoi.
C'est ça. Une corvée scolaire, alors que ça devrait pas l'être.
Et puis sans parler de la géographie, parce que les sources soulignent vraiment que cette dynamique, elle ne doit surtout pas s'arrêter aux frontières de la capitale.
Le rayonnement territorial, c'est un défi majeur.
Bah oui, si on a un événement grandiose à Rabat, mais qu'un étudiant à Salé, à Témara ou à Kénitra, ou même Kémisset, il n'a pas accès à une bibliothèque de quartier le reste de l'année.
C'est clair que le label perd un peu de son sens, quoi.
Exactement. La capitale mondiale du livre, elle ne doit pas agir comme un aspirateur qui prend toute l'énergie culturelle au centre, mais plutôt comme un réacteur qui la redistribue partout.
C'est une très bonne métaphore, ouais.
D'ailleurs, ça m'évoque inévitablement l'organisation des grands événements sportifs mondiaux, genre les Jeux Olympiques, tu vois.
Ah oui, je vois très bien où tu veux en venir.
Sur le moment, c'est l'euphorie totale. La planète entière regarde, les stades sont bondés, on bat des records.
Et après ?
Et honte, une fois la cérémonie de clôture passée, est-ce que ça va servir aux jeunes des quartiers ou est-ce que ça va finir en coquille vide, abandonnée avec des mauvaises herbes qui poussent au milieu ?
C'est le syndrome des éléphants blancs, oui.
Voilà. Et ici, dans notre cas, les infrastructures sportives, ce sont nos habitudes de lecture. Comment on évite que tout cet engouement ne retombe comme un soufflet ?
Alors, la comparaison avec les JO est vraiment pertinente, mais avec une différence de taille quand même.
Laquelle ?
Bah, un stade olympique qui se dégrade et qui rouille, ça se voit tout de suite.
C'est visuel, oui.
Alors qu'une perte d'habitude de lecture ou un réseau de petites librairies qui s'étiolent en silence, c'est totalement invisible à l'œil nu.
C'est vrai, ça fait pas les gros titres.
On garde contre l'autosatisfaction. Il faut surtout pas confondre le succès public d'un salon avec une vraie politique culturelle pérenne.
Donc, il faut construire quelque chose de solide pour l'après.
L'enjeu, c'est de bâtir un modèle économique capable de soutenir la création et la traduction tout au long de l'année. Il faut implanter le livre physiquement, mais aussi psychologiquement, en dehors des espaces d'exposition classiques.
C'est-à-dire ?
Eh bien, dans les maisons de jeunes, dans les cafés culturels, dans les écoles, il faut que le livre fasse partie du paysage quotidien.
Ouais, mais si on veut construire cette habitude et remplir ces futurs espaces, il faut quand même que l'offre suive. Et quand on regarde la matière première qui est décrite dans ce numéro spécial du Ciel, eh ben l'offre, elle donne carrément le vertige.
Ah, c'est foisonnant, ça c'est sûr.
C'est incroyable. L'identité marocaine qui s'y déploie, c'est un carrefour absolu. On y parle d'un héritage qui puise en Afrique, dans le monde arabe, dans le bassin méditerranéen.
Dans l'espace amazigh aussi.
Oui, l'espace amazigh, sans oublier évidemment les racines hébraïques et andalouses. C'est une mosaïque monumentale, quoi.
Une vraie richesse.
Mais justement, face à toute cette abondance, moi je me pose une vraie question. Est-ce qu'à force de revendiquer autant d'influence internationale et historique, l'édition marocaine ne risque pas un peu l'éparpillement ?
Ah, le risque de vouloir parler à tout le monde et de perdre sa propre voix ?
Exactement, de ne plus avoir une voix unifiée au final.
Alors, ce risque de dilution, il existerait vraiment si toutes ces influences étaient juste posées les unes à côté des autres, comme dans un catalogue de musée, tu vois ?
Ouais.
Mais le décryptage de nos sources montre tout autre chose, en fait. Cette diversité, elle est exploitée comme un outil redoutable de ce qu'on appelle la diplomatie douce.
La diplomatie douce. Tu pourrais clarifier un peu ce terme pour qu'on comprenne bien le mécanisme ?
Bien sûr. La diplomatie douce, ou le soft power, pour utiliser le terme anglais, c'est la capacité d'une nation à influencer son environnement, à séduire et à tisser des liens par sa culture, par ses idées, ses valeurs.
Plutôt par la force, quoi.
C'est ça, plutôt que par la force militaire ou la contrainte économique. Et dans le cadre du Ciel, le salon ne se contente pas de juste vendre des bouquins.
Non, ça va plus long.
Il crée une espèce de plateforme géante où toutes ces identités plurielles dialoguent avec l'international. Et du coup, ça positionne le pays comme un point de convergence intellectuelle vraiment incontournable.
Et la mise en pratique de cette diplomatie douce, elle est assez fascinante à observer dans le magazine. Ils documentent des formats de communication qui sont hyper directs, genre les capsules vidéo qu'ils appellent « livre en une minute ».
Ah oui, très sympa ce format.
C'est un format ultra court, très adapté à l'ère d'Instagram ou TikTok, mais qui met en lumière des poids lourds de l'édition étrangère.
Ouais, c'est malin de mélanger les deux.
On y voit par exemple la maison d'édition irakienne Dar al-Setour, avec Bilal al-Baghdadi, qui vient expliquer les spécificités du livre irakien. On retrouve aussi des éditeurs égyptiens, genre Mustafa Jamal pour Dar al-Ma'aref, ou encore Abdel Ghani Sultan al-Faki de Nama. C'est brillant de voir ça, mais concrètement, en quoi la présence d'un éditeur irakien ou égyptien aide la société marocaine à se comprendre elle-même ?
C'est une excellente question. En fait, c'est parce que la littérature de l'autre agit toujours comme un miroir.
Un miroir, ok.
Quand un lecteur découvre les publications d'un éditeur irakien qui parle de la reconstruction post-crise ou d'un éditeur égyptien qui analyse les mutations sociales au bord du Nil, bah, il y trouve des résonances avec ses propres défis.
Ah oui, je vois. Les thématiques se rejoignent.
Totalement. Les questions sur la jeunesse, sur l'emploi, sur la tension entre tradition et modernité, c'est des thèmes qui traversent toute la région. Donc accueillir ces voix au ciel, ça permet d'organiser un dialogue.
C'est logique.
Et d'ailleurs, ça se couple parfaitement avec l'ancrage local. Le magazine souligne bien les interventions du chercheur en sociologie Samir Al-Saïdi, qui décortique les transformations de la société marocaine au quotidien.
Et on trouve aussi des exemples super concrets d'ouvrages qui structurent cette pensée locale. Je pense notamment à ceux présentés par Abdessamad Aliane.
Oui, tout à fait.
Avec des livres comme « Le Sahara marocain » ou « Le guide de la citoyenneté active », qui sont d'ailleurs disponibles en arabe et en français, on voit bien que l'objectif de tout ça, c'est pas juste de faire rêver les gens avec de la fiction, mais de forger des citoyens éclairés.
C'est ça, le livre permet de prendre toute cette complexité, qu'elle soit géopolitique, historique ou sociale, et de l'organiser en un récit qui devient cohérent pour le citoyen. Donc c'est pas du tout de l'éparpillement, c'est vraiment la construction d'une pensée critique.
Mais tout ce grand récit géopolitique et sociologique, aussi crucial soit-il, il doit bien finir par atterrir à un endroit très précis en fait. C'est entre les mains d'un individu.
Au niveau du lecteur, oui.
Et c'est là que notre exploration de la source devient, je trouve, particulièrement intime. Quand on quitte un peu l'échelle des nations pour descendre directement dans les allées du salon, on se rend compte que l'essence même du livre, ça reste une connexion humaine brute.
Complètement.
Il y a une scène rapportée dans le magazine qui illustre parfaitement ça. On est un dimanche à l'espace OLM Soussi, sur le stand de la région Rabat-Salé-Kénitra, et l'écrivaine Sarah El-Boufi anime une séance de dédicace pour son roman qui a un titre assez intriguant, Bila Onwan.
Ce qui se traduit par « sans titre », oui.
Exactement. Et le compte-rendu décrit un truc qui va bien au-delà d'une simple transaction où l'auteur signe son nom à la chaîne sur la première page.
Ouais, le journaliste décrit vraiment un moment de suspension. En fait, les personnes qui étaient là, que ce soit des étudiants, des professionnels ou juste des curieux, ils venaient pas juste chercher une signature pour faire joli sur leur étagère.
Ils cherchaient autre chose.
Ils venaient chercher un véritable échange émotionnel, une espèce de validation de leur propre expérience de lecture. D'ailleurs, le détail qui mentionne que l'auteur a reçu un bouquet de fleurs de la part de ses lecteurs, c'est pas anecdotique du tout.
Ah non, c'est fort?
C'est la matérialisation physique de la gratitude. Ça prouve que le livre, au-delà du papier, réussit à créer un espace d'empathie pure.
Et ce choix de titre, Bila Ohan, sans titre, je trouve ça d'une intelligence redoutable.
Ah oui, hein? Pourquoi?
Bah, ça me rappelle presque l'architecture d'un code open source en informatique, tu vois.
L'open source? Ah, c'est original comme parallèle. Explique-moi ça.
En fait, dans un logiciel open source, le développeur, il crée la trame, l'architecture de base du programme. Mais le logiciel ne prend tout son sens que lorsque les utilisateurs viennent y ajouter leurs propres lignes de code ou leurs propres données.
D'accord, je vois l'idée.
Et là, en refusant d'imposer un titre, c'est comme si l'auteur fournissait juste la structure narrative et c'est au lecteur d'amener ses propres souvenirs, ses propres doutes et ses propres émotions pour faire fonctionner l'histoire.
C'est une super belle comparaison, c'est exactement ça.
Mais du coup, cette espèce de soif de rencontre physique, ça m'amène à une réflexion presque paradoxale. À notre époque hyperconnectée, où on passe un temps infini à scroller sur des écrans froids, est-ce que le succès d'un événement physique comme le ciel, ça prouve pas que l'attrait est finalement plus social que littéraire? Est-ce que le public vient pas d'abord chercher de la chaleur humaine avant même de chercher du texte?
En fait, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Et le fait de chercher l'humain, ça renforce le pouvoir du texte.
Ouais, c'est pas incompatible.
Pas du tout. Le livre agit vraiment comme un rempart contre la dématérialisation de nos rapports sociaux. Le besoin de voir en chair et en os la personne qui a formulé les mots qui nous ont bouleversés, c'est viscéral.
C'est clair.
Et on a un autre exemple tiré des sources qui le confirme magnifiquement. C'est la rencontre qui a été organisée au stand de l'ISADAC.
Ah oui, l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. Une rencontre qui était animée par Noéla Taillé autour d'une figure majeure, c'est bien ça?
Tout à fait, avec le célèbre dramaturge et metteur en scène Driss Roukené. Et le public ici est vraiment pressé pour l'écouter aborder ses œuvres théâtrales.
Il parlait de quelles œuvres en particulier?
Spécifiquement de Al-Hafra, donc le trou, et de Doumoum Minouarer, l'arme de papier. Ce sont des textes qui plongent hyper profondément dans les abysses et les vulnérabilités de la condition humaine.
Ah ouais, des thèmes lourds.
Très lourds. Et le théâtre, par essence, bah, ça nécessite un corps, une voix, une présence. Le fait que le public se déplace en masse pour un dramaturge dans un salon du livre, ça montre à quel point l'incarnation physique des mots, c'est devenu une nécessité absolue.
C'est un besoin réel.
Oui. Le livre, il crée l'opportunité de ce lien intergénérationnel palpable, qui est complètement à l'opposé de la solitude qu'on ressent devant un écran.
Incarner les mots et attirer de nouveaux publics vers la lecture, en gros, c'est ça le nerf de la guerre. Mais pour y parvenir, il faut parfois emprunter des chemins qu'on n'aurait jamais soupçonnés.
C'est-à-dire ?
Bah, j'avoue que, lors de la lecture des sources, il y a une info qui m'a fait faire un véritable bond sur ma chaise.
Ah bon ? Laquelle ?
On apprend que l'association du Salon du Cheval a installé un espace qui est entièrement dédié au patrimoine équestre marocain, au beau milieu du Seyel.
Oui, oui, tout à fait.
C'est à l'initiative du docteur El Habib Marzak, le commissaire du Salon du Cheval d'El Jadida. Mais quand on lit ça, la première réaction, c'est un peu l'incompréhension, quoi.
Ça surprend.
Carrément. On est dans un salon littéraire. C'est le royaume du papier, de l'intellect, du silence. Et soudain, paf, on introduit la filière équine. Franchement, ça ressemble à une erreur de casting ou à une distraction totale. Comment le fait de parler de chevaux, ça peut sérieusement contribuer à structurer une politique de lecture ?
Alors, l'incompréhension initiale, elle est super normale, je te rassure.
Ouf.
Mais l'initiative du docteur El Habib Marzak, elle relève en réalité d'une manœuvre pédagogique qui est brillante.
Brillante ?
À ce point.
Ah oui.
C'est pas du tout à hors sujet. C'est vraiment l'illustration de ce qu'on pourrait appeler la stratégie du cheval de Troie. De la lecture, sans faire de mauvais jeu de mots.
Joli.
Pour comprendre, il faut voir la place du cheval dans l'inconscient collectif au Maroc. C'est pas juste un animal sympa ou un loisir de niche pour quelques passionnés.
C'est beaucoup plus profond.
C'est un symbole historique fondamental, c'est un acteur économique incontournable du monde rural et c'est un énorme point de fierté identitaire.
Donc si je suis bien ton raisonnement, l'idée c'est pas juste de vendre le dernier roman qui parle de chevaux, mais plutôt d'utiliser cette passion énorme comme un appât.
Voilà, enfin, le terme d'appât est peut-être un peu réducteur. Disons plutôt que c'est une porte d'entrée qui leur est familière.
Ouais, une porte d'entrée, c'est mieux.
Regardez ce qui est proposé concrètement sur ce stand. On n'y trouve pas juste des simples posters de chevaux. Le magazine liste une offre hyper pointue. On y trouve des manuscrits anciens, des traités scientifiques médiévaux, un dictionnaire des termes équestres et même les actes des conférences scientifiques tenues depuis 2008.
Ah ouais, c'est du sérieux, c'est pas juste des images.
C'est très sérieux. L'objectif, c'est de capter un public spécifique, que ce soit des professionnels du monde rural, des passionnés d'équitation ou juste des amateurs d'histoire. Un public qui ne se serait peut-être jamais, au grand jamais, déplacé pour un essai de sociologie ou pour de la poésie contemporaine.
Ah, mais le mécanisme devient très clair, en fait. Au lieu de tenir un discours moralisateur du genre « il faut lire, la lecture c'est super important pour votre développement intellectuel », ce qui marche jamais.
Ce qui braque les gens, oui.
Voilà. On modifie complètement l'approche, on leur dit plutôt « Hey, regardez tout le savoir, toute l'histoire scientifique et technique de cette passion des chevaux qui vous anime viscéralement, bah en fait, elle se trouve dans ces livres-là. »
Exactement. Et c'est l'essence même de la désacralisation de la lecture. On prend un objet culturel qui peut vraiment intimider par son côté académique, le livre, et on le relie directement au quotidien et au centre d'intérêt réel des citoyens.
C'est malin.
Par ce biais croisé, on transforme subtilement un passionné de chevaux en un lecteur d'ouvrages scientifiques et patrimoniaux. C'est la preuve que l'industrie de l'édition, elle a la capacité d'innover pour aller chercher les publics directement là où ils se trouvent, au lieu d'attendre passivement qu'ils poussent la porte d'une librairie, ce qui n'arrive pas toujours.
Ce croisement inattendu, franchement, ça résume à merveille toute la complexité du sujet qu'on traite aujourd'hui. Si on prend un peu d'auteur pour faire la synthèse de cette exploration, basée sur le numéro spécial de l'ODJ Média, on voit que le Ciel 2026, sous ce label de l'UNESCO, ça apparaît vraiment comme un laboratoire à ciel ouvert.
Un laboratoire fascinant, qui révèle d'un côté les tensions d'une industrie en pleine mutation, qui lutte avec des réalités économiques tenaces pour s'implanter durablement sur tout le territoire,
ouais,
mais qui montre aussi, de l'autre côté, une vitalité intellectuelle qui est foisonnante, une industrie capable d'utiliser la diplomatie douce pour dialoguer avec le monde entier, tout en répondant à ce besoin fondamental d'empathie humaine et de reconnexion à travers des initiatives aussi surprenantes que la valorisation du patrimoine équestre.
En fin de compte, le livre reste vraiment l'outil par excellence pour comprendre où va une société. L'éditorial le soulignait très bien d'ailleurs, hein. Il est le révélateur du rapport d'une nation à son passé, mais aussi à son avenir.
Tout à fait.
Ce qui amène inévitablement à une réflexion un peu plus intime, je trouve, pour clore cette analyse aujourd'hui.
Je t'écoute.
Si on dit qu'une capitale mondiale du livre se juge à la diversité et à la profondeur des œuvres qu'elle met en lumière, on peut se demander ce que révèle alors la composition de notre propre bibliothèque personnelle chez nous.
C'est une excellente question.
Qu'est-ce qu'elle dit sur l'avenir qui se construit au quotidien à l'échelle d'un simple individu ? C'est une interrogation, je trouve, vertigineuse, qui mérite vraiment qu'on s'y attarde la prochaine fois qu'un livre trouvera sa place sur notre étagère.
Ça fait réfléchir, en tout cas.
C'est ce qui rend cette exploration si fascinante, au final. L'invitation est lancée pour continuer à lire entre les lignes et à chercher ces connexions inattendues. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.